L'école volante sur Radio Piquesse.
Pour notre émission Gilets jaunes sur les Gilets jaunes en mode bilan et perspective. Alors, on arrive à la deuxième partie après les présentations et témoignages des invités. Je vais vous demander, c'est assez simple, quel point positif et négatif, regret tirez-vous de cette expérience du mouvement des Gilets jaunes ? Donc on va continuer dans le même ordre si tu veux, Camille.
Tu peux faire un débat.
Ouais, après ça va peut-être être assez free quoi. Faut...
Ouais, ah ouais, non mais c'est. À moins que quelqu'un veuille parler en premier, mais c'est. N'hésitez pas à interagir les uns avec les autres. Oui, non mais.
Enfin, après un bilan déjà. Ouais, bilan. Bilan, moi il me dérange le mot parce que finalement ça me permettra d'enchaîner avec la troisième question, mais il est pas fini en fait ce mouvement. Ouais, il est pas fini. Il va évoluer, quoi. En fait, c'est pas un mouvement, c'est les gens qui sont dedans. Donc, les gens, ils continuent à évoluer. Ils ont une vie, ils se sont rencontrés. Pour moi, ça, c'est le gros point positif, c'est la rencontre, quoi. C'est vraiment ça, comme le disaient Brigitte, Manu et les autres. Beaucoup disaient la fraternité, en fait, qu'ils avaient retrouvé la fraternité avec ce mouvement-là, c'est un peu ça. Ça permet vraiment de casser l'individualisme qui a lieu dans nos sociétés et qui veut essayer de nous enfermer chacun dans notre petite case, en fait. Pour moi, ça, c'est le gros point positif, quoi. C'est la rencontre. Et après, la rencontre, bah, elle va aboutir à d'autres choses. Si c'est le mouvement des Gilets jaunes en 2018, 2019, 2020, bah, c'est le mouvement des Gilets jaunes. Ça sera un autre mouvement après. Ça permet de créer des liens. Après, il y a des frictions aussi, mais quelque part, les frictions, en fait, elles sont normales. C'est peut-être un des... Ce qu'on peut apprendre de ça, en fait, c'est aussi bah, de voir que... Parce que c'était une critique assez fréquente, justement, des médias qui essayaient de discréditer le mouvement pour essayer de le détruire. C'était de dire, oui, mais ils n'arrivent pas à s'entendre entre eux, ils ne sont pas d'accord sur les revendications, des fois ils s'engueulent, tout ça. Mais en fait, heureusement, peut-être qu'ils s'engueulent, et peut-être heureusement qu'ils ne sont pas d'accord, parce que ça fait... C'est comme un mouvement, en dehors des partis politiques, en dehors des syndicats, qui réunit des gens qui ne se sont jamais vus avant, donc... Il y a un gros passif derrière, il y a un travail énorme d'éducation, de communication, parce que on est assez mauvais en général pour communiquer entre nous.
On s'engueule moins quand même qu'à l'Assemblée nationale, hein, donc ça va.
Quand on voit Olivier Véran l'autre jour, ouais, on
peut demander. Ouais. Ah, j'ai pas vu encore.
On aurait dit qu'il était fou.
Ah, il était fou, ouais. Mais,
c'est la drogue, ça.
Ouais, c'était l'hypocrisie qui parlait surtout, c'était assez indécent. Et puis, bah, du coup, ouais, on part de loin, donc effectivement, un débat assez serein et constructif, en fait, surtout, parce que ben, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc ouais, c'est surtout ça, pour moi, le gros point positif. Ça s'engueule, c'est sale, ça pue des fois, mais c'est aussi super beau, parce que ben, justement, ça avance et ça permet une politisation ultra rapide, en fait, des gens, parce que les gens se parlent au quotidien, ils confrontent leur expérience, leur vécu, leur savoir-faire. Et puis ça avance. Après, effectivement, il y a des dissensions qui se créent parce que c'est compliqué, hein. Évidemment, un mouvement social aussi dense, intense, c'est aussi un peu la même question que la question de faire société. Comment on fait société entre nous, des gens qui sont si différents? Il peut y avoir des dissensions, bah, quelque part, tant mieux, c'est logique. Après, c'est sur quoi ça se base? Est-ce que ces dissensions sont. Non dépassable ou pas, voilà, mais ce qui est génial, c'est que ça a permis, de par cette politisation ultra rapide, et en fait de casser l'individualisme et de mettre de l'humain au centre, et du coup de, comment dire, des vraies valeurs, en fait. Il y a plein de gens qui finalement, tu parlais tout à l'heure quand tu faisais un peu le résumé du mouvement, qu'il y avait certaines franges qui votaient, ben, qui votaient à droite, d'autres à gauche, machin. Le melting pot des idées qu'a permis ce mouvement, ça a aussi permis, globalement, ben, c'est ce que j'ai vu pour certaines personnes, une humanisation, et vraiment de lever vers le haut l'esprit de plein de monde, et de se dire, ben, en fait, effectivement, quand tu disais, on n'est pas tout seul, je ne suis pas le seul à vivre ça. Le rassemblement détruit l'exclusion, et par exemple la question du racisme, le racisme, une des bases, c'est l'isolement et c'est la méconnaissance de l'autre. Bah là, la connaissance de l'autre et le fait que les gens ne soient plus isolés, ça détruit par exemple une grande partie du racisme qu'il pouvait y avoir chez certaines personnes initialement. Bon, je vais laisser la parole.
Quelqu'un veut réagir un peu
Pour repartir un peu sur les points positifs et négatifs, Un gros point positif, c'est qu'il y a des gens qui sont descendus et qui sont parlés et qui ne sont jamais intéressés à quoi que ce soit, qui restent enfermés chez eux. Et qui, à un moment, en fait, ont décidé, ont compris en fait, que c'est rien qu'en en apportant une personne physique ou quoi que ce soit, en fait, on apporte quelque chose à la lutte, on apporte quelque chose à la vie politique, on apporte quelque chose à la société, en fait. Et ce qui représente la majorité, une grande partie des Gilets jaunes, en fait. Beaucoup de gens n'avaient jamais manifesté. Il y en a quand même pas mal aussi qui n'avaient jamais voté, etc., en fait. Enfin, vraiment des gens qui étaient vraiment isolés politiquement et socialement. Et ça, c'est un grand point positif. Pour l'avenir des Gilets jaunes, moi, j'ai plutôt l'impression qu'aujourd'hui, c'est plutôt au point mort. Les Gilets jaunes en eux-mêmes, bah, c'est très bien, ça va continuer, c'est passé des choses, etc. Et on est plus, aujourd'hui, je trouve, dans une contestation sociale, citoyenne, plutôt que spécifique Gilets jaunes, en fait.
Ok. Quelqu'un veut...
Ouais, moi, je vais revenir sur le gros point positif. Ce mouvement des Gilets jaunes a fait se rencontrer énormément de classes sociales complètement différentes, que ce soit des chômeurs, des artisans, des salariés, de tout milieu confondu, et chose qui ne se faisait peut-être pas avant. Moi le premier, j'étais isolé chez moi à faire mon petit train-train, et le fait d'être sorti, j'ai rencontré des personnes qui m'ont touché et qui sont sortis justement parce qu'ils avaient peut-être pas les mêmes revendications que moi, mais parce qu'ils avaient, on s'est aperçu qu'en étant dans la rue, il n'y avait pas que le problème de l'augmentation du gasoil, il y a eu en fait une augmentation sur tout le confort de vie, les produits de première nécessité, et en fait ça fait déjà des années et des années que ça dure, que le gouvernement nous ponctionne pratiquement tout ce qu'on gagne. On est quand même la main d'œuvre du pays, c'est nous qui faisons rentrer le maximum d'argent. Même ceux qui ne travaillent pas, il y a un jour ou l'autre ils ont travaillé. Faut arrêter de dire que ces gens-là ne travaillent pas, ça c'est complètement faux. Le gouvernement par contre peut-être fait en sorte de pas en faire travailler d'autres. Les bichonnes chez eux, bon ça c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Mais le gros point positif c'est ça, c'est que les gens se sont retrouvés dans la rue un petit peu par hasard, je vais pas dire sans le vouloir, mais sans vraiment avoir de but au début, et finalement ça s'est vraiment transformé en une lutte pour beaucoup de choses, pas que le gasoil. Moi je trouve ça beau, et voilà, j'espère que ça va continuer. Le gros regret que j'ai, c'est ça, c'est que tout le monde est un petit peu parti dans tous les sens. Il y a eu de la politisation énorme au sein du mouvement. Il y a eu des personnes qui sont venues exprès pour casser le mouvement, qui n'avaient pas spécialement envie de. Et qui n'ont pas spécialement envie que ça change. On a pu le voir sur les ronds-points, hein, des personnes qui venaient fous de la merde, entre guillemets. Et ils ont bien réussi, je pense, à force de nous tirer dans les pattes. On a fini par nous, entre nous, s'engueuler, se prendre la tête pour des broutilles, alors que finalement, si on aurait continué à se donner la main, on aurait été encore plus loin que ça.
Oui, je pense aussi que, parce que dans tous les mouvements, il y a un moment où il y a un boss, et aussi parce qu'il y a la fatigue, parce que tenir un rond-point, on travaille, on a des enfants, enfin bref. Donc il y a la fatigue, et puis il y a eu la répression.
Surtout
et quand
la répression.
Des gens sont dans la rue parce qu'ils ont du mal à bouffer, que le 15 du mois, ils ont pire dans leur frigo, et qu'ils reçoivent des amendes chez eux, ou ils vont en garde à vue et tout ça, ben 135 euros, quand tu gagnes 800 euros, et ben c'est énorme, c'est énorme. Et donc c'est cette pression-là qui a fait aussi que les gens ne sont plus allés dans la rue. Parce qu'ils ont eu peur. Et quand on voyait la télé, les manifestations à Paris, moi, dans ma famille, on me disait « Manu, tu arrêtes, hein, t'arrêtes tes conneries !» Et tout ça. Et donc, maintenant, ils ont changé d'avis. Ils m'ont dit « Tu as raison, continue !» Mais il y a eu un moment, il y avait tellement de répression, que les gens, ils ont eu peur.
J'ai une question pour toi. Tu dis, ta famille maintenant te dit, vas-y, continue, c'est peut-être une victoire aussi. Ça.
Oui, oui. Ouais, parce que ma grand-mère, je l'ai vue il y a quelques jours, et elle m'a dit qu'elle était fière de moi, parce qu'au début, elle me disait d'arrêter, elle avait peur, parce qu'avec les médias et tout ça, et qu'elle m'a dit qu'elle était fière de moi et que j'avais raison de militer. Voilà.
C'est ça, justement, le point positif, c'est qu'on a fait sortir, nous, petits comme on est, on a fait sortir énormément de gens qui ne se sentaient pas concernés par ce qui se passait. Et finalement, en tirant sur un fil, puis sur un autre, ils se sont aperçus que le gouvernement, depuis des années, finalement, nous chient dans les pattes, hein, on vote pour eux, et finalement, derrière, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous prennent ce qu'on a, alors que ça devrait être le contraire. Ils devraient justement se battre pour qu'on ait un maximum. Et là, on s'aperçoit que les classes sociales, que la grosse classe sociale qui est tout en haut, devrait venir en bas pour voir ce qui se passe, et peut-être que là, ils ouvriraient les yeux et se diraient, ah ouais, peut-être que là, on tire trop sur leur gueule, et que voilà.
Mais je pense que c'est pas leur but.
Ils le savent, mais ils le savent, oui et non, parce qu'en fait, c'est des personnes qui sont, depuis tout petit, ils sont, c'est comme nous. Moi, j'ai été élevé dans un milieu, mes parents étaient au RSA, les deux, travaillaient pas, je viens d'un quartier social, si ce n'est pas un des plus, je vais pas dire cassos, mais parce que ça m'énerve ce mot-là, mais c'était très compliqué. Moi, j'étais jeune, il a fallu que je vole pour manger, ma mère ne pouvait pas me payer l'école, donc finalement j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai qu'un CAP, ça m'a pas empêché d'être chef d'entreprise parce que je me suis peut-être sorti les doigts du plus rapidement que d'autres, mais en venant d'une classe sociale complètement d'en bas, j'ai réussi à aller tout en haut. Je ne pouvais pas ne pas être dans la rue avec les gens qui étaient justement en bas et de les aider. Sauf que ces gens-là qui sont en haut, ils ont toujours été en haut. De petits jusqu'à maintenant, ils ont toujours été en haut. Leurs parents gagnaient très bien leur vie. Quand on voit Emmanuel Macron, ses parents, ils étaient médecins tous les deux. Alors, les médecins ne gagnent pas des millions non plus, mais ils avaient quand même un confort de vie qui était un peu plus élevé que ceux qui sont au RSA ou au SMIC, ou même plus qu'au SMIC, parce que même quelqu'un qui a 2000 euros maintenant aujourd'hui pour travailler, les fins de mois sont quand même compliquées avec tout ce qui nous tombe sur la gueule, que ce soit les crédits, tous les produits nécessités, ou même rien que de se faire plaisir. Payer des vacances, ça devient compliqué pour une personne qui travaille et qui gagne 2000 euros par mois. Donc on voit que les gens qui sont au-dessus, même on n'a qu'à prendre juste un député, hein, qui gagne 10, 12 000 balles, il se rend pas compte que nous, derrière, on trime pour gagner ça. Nous, c'est une année, alors que lui, en un mois, il l'a. Et ils se permettent en plus de venir pleurer en disant que c'est pas assez. Et voilà. Donc, mais le point positif, c'est ça. C'est énormément de personnes ne se sentaient pas concernées. Aujourd'hui, ils se sentent concernées, même s'ils sortent pas dans la rue parce que c'est compliqué avec la répression. On l'a vu sur Brest, on l'a vu sur les grandes villes. C'est des millions et des millions qu'ils ont pris à des personnes qui n'ont déjà pas grand-chose. Donc les gens ont peur de ça. Quand on demande aux personnes qui étaient avec nous avant dans la rue « Pourquoi vous sortez plus ?» Moi, le premier, je suis désolé, mais je peux pas mettre 135 balles tous les week-ends juste parce que ces technocrates ont décidé de nous prendre notre argent.
Et même dans la tête des gens qui sont justement pas sortis, parce que je pense pas que la grand-mère de Manu soit sortie.
Il y a des personnes qui peuvent pas non plus physiquement et qui se sentaient peut-être pas prêtes non plus de sortir, mais je pense qu'un jour ou l'autre ça finira par arriver et ils finiront par rejoindre les rangs des personnes qui ont des choses à demander.
Parce que ça revient un peu à ce qu'on a fait plutôt en première partie, mais moi je me demandais. Sur le moment où... Il y en a qui ont raconté plus précisément ça, mais en fait, vraiment, qu'est-ce qui fait la différence entre y aller et pas y aller, quoi, le premier jour où t'y vas Parce que je connais beaucoup de gens, quand même, qui ont dit « j'ai failli y aller », quoi. Mais ils y sont pas allés, hein, mais « j'ai failli y aller », quoi.
Bah, ouais, je peux me permettre. Moi, je pense... Une des réponses, mais c'est pas du tout la seule, hein. Mais justement, ça revient à ce que je disais moi au début, ce qui m'a fait sortir, c'est le mépris de classe, quoi. Parce que t'as plein de gens aussi qui effectivement, parce que quand on regarde les stats, on était des fois, au début, on était à 70% d'opinions favorables sur ce mouvement-là, qui partagent certaines idées, mais qui ont pas la culture de cette lutte-là, et qui surtout, hein, t'es taré En novembre, il pleut, je peux aller foutre mes godasses sur un rond-point où c'est dégueulasse, quoi. Hein, y a aussi de ça, quelque part. Viens. Mais effectivement, pour moi, une des questions là-dessus, et c'est, pour moi, ça fait partie des regrets, par contre, c'est qu'on n'ait pas réussi, mais parce que, voilà, c'est peut-être pas la bonne forme, pas le bon moment, il y a plein de raisons, hein, à justement concerner ces gens-là, quoi. Comment faire en sorte... Parce que on peut voir les Gilets jaunes un peu comme un moment, c'est critiquable ce que je dis, mais comme un moment, au début en tout cas, un moment pseudo-révolutionnaire, on va dire, une volonté d'aller un peu plus loin qu'une simple manif, quoi.
Pré-révolutionnaire.
Pré-révolutionnaire, bref, ça se discute, quoi. Mais un mouvement pré-révolutionnaire, révolutionnaire, ça n'existe pas quand il n'y a pas cette classe de gens-là aussi qui est concernée, quoi. Et ceux-là, on n'a pas réussi à les concerner. Je sais pas, après, est-ce que la structuration de la société au niveau de l'individualisme actuellement empêche les gens de bouger? Est-ce qu'ils voient que la précarité augmente et que du coup, On n'a encore pas du tout envie de, voilà, d'être soumis à, aux impératifs négatifs de la rue, à savoir la répression policière, à savoir se bouger, parce que ça prend du temps. C'est un investissement, ben, je sais pas, tous ben ici, ça, autant qu'on est, on a mis du temps. Quoi. On a donné notre vie, limite, pendant plusieurs mois.
Ce qu'il y a eu au début du mouvement, c'est que c'était tous les jours, c'était pas juste le samedi.
Ouais,
on a commencé à avoir énormément de monde quand on a commencé à faire des flyers et à dire, voilà, il y a un rassemblement le samedi. Les gens venaient le samedi, mais la semaine, on était... une poignée, je ne vais pas dire une poignée, mais on était 20, 30 à tenir les ronds-points, mais tous les jours, matin, midi, soir, la nuit, on était à 3, 4 à tenir les ronds-points sous des bâches, tout le monde n'avait pas le mental, et je pense que les personnes qui sont descendues tout de suite dans la rue, c'est vraiment ceux qui avaient vraiment tout de suite, sur le moment, quelque chose à demander au gouvernement, qui avaient peut-être plus la rage, les autres, petit à petit, se sont dit, bah, ils y sont quand même tous les jours, on l'entendait, nous, sur les ronds-points, oh, vous êtes courageux, ils flottent, comme tu disais, il fait froid, machin, et petit à petit, ces gens-là, venir nous parler sur le rond-point, venez avec nous, mais le samedi, parce que peut-être après aussi, je pense qu'ils ont des crédits, beaucoup ont des crédits sur le dos, bon coup, n'y ont pas cru, peut-être aussi en se disant... les syndicats sont dans la rue depuis des années, ils n'y arrivent pas. Pourquoi maintenant, en tant que citoyen, on y arriverait? C'est pas structuré. On a eu énormément de reproches, énormément de critiques. Mais le début, moi je pense que le plus beau du mouvement, c'était le début. Après, voilà, il y a eu les rendez-vous le samedi, c'était plus excitant, il y a eu du monde, c'était bien. Mais voilà, beaucoup se sont découragés parce que ça n'allait pas plus loin que les marches. Après, il y en a qui veulent plus. Bon, ça, après, chacun doit prendre un peu sur lui et se dire que s'il veut que ça bouge, ben il a qu'à bouger. Et puis voilà, au lieu de dire t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, il arrive un moment, stop quoi.
C'est un truc. Ah, pardon, tu voulais parler, Nico?
Ouais, j'aime bien. Mais juste, je me présente vite fait parce qu'il y a peut-être des gens qui me connaissent pas et pour les gens qui vont écouter. Donc, moi, je fais partie de Radio Piquet, du coup, une radio de lutte, on peut dire. On avait fait des émissions déjà il y a un an et demi avec des gens des Gilets jaunes. Moi, j'ai pas fait partie des Gilets jaunes, hein. Du coup, voilà. J'ai participé à des manifs, je suis allé au camp, j'étais sur le port. On ne peut pas dire que je me suis impliqué, engagé autant que vous, là, et voilà, c'est comme ça. J'étais un peu en décalage parce que je rentrais d'un voyage, mais bref, je peux trouver plein de raisons. Concrètement, je ne me suis pas engagé comme vous l'avez fait, et pourtant j'ai une énorme sympathie pour le mouvement. Et voilà. Mais juste, je veux rebondir un petit peu sur des trucs, parce que... c'est vachement intéressant tout ce que vous dites, quoi. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est cette espèce de contradiction qu'il y avait dans ce mouvement, qui est entre, au départ, en fait, un refus de la politique au sens des institutions, au sens où on refuse le monde tel qu'il est, là, tel qu'il fonctionne, tel qu'il est organisé par, on va l'appeler l'oligarchie, les élites, le gouvernement, tout ce qu'on veut, etc. Et en même temps, ce qu'a fait ce mouvement, c'est fondamentalement de la politique. Quoi. Solidarité, fraternité, du lien social. Et en fait, même que ça parte quoi, de gens qui ne se connaissaient pas au départ, qui créent tout ça, c'est fondamentalement de la politique. Quoi. C'est la grande question, qu'est-ce qu'on veut en fait? Qu'est-ce qu'on veut faire quoi, ce que vous avez dit. Qu'est-ce qu'on veut comme société? Et du coup, y a un truc... que j'ai envie qu'on creuse, quoi. Vous parlez de situation pré-révolutionnaire. Ouais, il y a eu des moments pré-révolutionnaires, puisque là, ça part du bas, on peut dire. Ça part pas des institutions. C'est une situation pré-révolutionnaire, par définition. Du coup, en fait, moi, j'ai l'impression, là, l'idée de cette émission, peut-être le mot, c'est pas bilan, mais c'est comprendre ce qui s'est passé pour, après... projeter dans l'avenir comment s'organiser à nouveau. Pour comprendre, faut partir de l'état du monde dans lequel il est, quoi. L'état du monde qui est un putain de capitalisme sauvage, individualisant depuis des décennies, qui fait que les gens, là, ne se rencontraient plus comme ils se sont rencontrés, par exemple. Ils ne pouvaient même plus créer du lien social comme ils l'ont fait, quoi. Il y a ça, quoi. Il y a l'état des choses. Je le schématise de façon très... très caricatural peut-être, mais je pense que c'est ça dans le fond. On vit dans une société hyper individualiste qui a privatisé même les individus. Bon, voilà. Je me perds un peu dans ce que je voulais dire, mais du coup, il faut partir de l'état du monde tel qu'il est, quoi, qui est plutôt, on va dire, alors, on est écrasé, quoi. C'est les ennemis qui ont gagné. Vous avez utilisé des mots comme lutte de classe. Vous parlez beaucoup de ça. la place des ouvriers, la place des jeunes, la place des travailleurs, la place des femmes, la place des gens qui sont discriminés pour leur genre, pour leur sexualité, etc.
Pour leur handicap.
Pour leur handicap. Il y avait beaucoup de personnes en situation de handicap dans le mouvement, quoi. Voilà, etc. Donc voilà, en fait, il y a l'état du monde tel qu'il est, et là c'est formidable en fait ce qui s'est passé avec ce mouvement, super positif. Et deuxième truc, c'est que la répression, elle est plus qu'importante. Il y a François Cusset, un historien des idées, qui dit il n'y a jamais eu autant de violences policières depuis la guerre d'Algérie. Donc s'il y a aussi un enseignement que nous a montré ce mouvement-là, c'est qu'en face, ils sont organisés pour casser en fait ce qui vient de se passer. Et ils le font avec une force terrible, quoi. Terrible.
Tu peux réagir, du coup ? Ouais, du coup, bon, on avait appelé ça bilan, mais c'était aussi parce que faut être honnête aussi, que c'est qu'il y a quand même une période au niveau des effectifs, quoi, tu vois. Et souvent, moi, je me suis basé sur des bouquins, et souvent, ils s'arrêtaient à, je sais plus, à mars, juin, ou un truc comme ça. Et puis après, il y a vraiment beaucoup moins de monde. Par exemple, quand ils font des manifs à Paris, j'entendais, alors je vais avoir du mal à dire son nom, Fais-y Lelouch. Qui disait bon, ça rime plus à rien de manifester à 200 à Paris quand on était je sais plus combien il a pu avoir à Paris. Enfin voilà, donc ça c'était pour le mot bilan. Après, sur le, c'est intéressant ce que tu dis, parce que sur vous faites de la politique, et c'est pour ça que qu'est arrivé le mot apartidaire dans le mouvement. C'est parce bien que sûr. Ça arrivait en AG, tu vois. Mais ouais, mais
parce qu'on disait qu'on faisait pas, ouais, qu'on luttait contre la politique, mais finalement du jour où on est sorti dans la rue, on a commencé à faire de la politique parce qu'on luttait contre ces personnes là.
Et du coup, sur l'histoire de moi, par rapport à la situation pré-révolutionnaire, moi c'est, je me basais sur Emmanuel Todd, qui disait que c'était, lui il voyait ça comme le début d'un cycle de 50 ans de lutte des classes, et notamment avec la présence des femmes massives, qui est souvent le signe d'un moment révolutionnaire. Voilà. Après, faut savoir aussi que dans toute révolution, c'est pas un truc qu'on veut, mais c'est souvent une classe. Y a souvent une direction de la petite bourgeoisie, ou de, comment dire, une petite bourgeoisie intellectuelle, comme la Révolution française, tu vois, les Marat, Danton, Robespierre, tout ça, c'est pas, c'est souvent des avocats, des trucs comme ça, quoi. Et là, moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu tout à fait cette jonction des gilets jaunes avec ce genre de personnes, et on a pu entendre, c'est Emmanuel Todd qui parle toujours, quand lui, dans les gens qui rencontraient, profs et tout, ils disaient, oh, je sais pas, moi je vais pas aller voir les gilets jaunes, enfin, moi, et parce que ils restaient dans leur monde, dans leur classe sociale, ils restaient dans leur monde, et ils osaient pas aller, machin, tout ça.
Il y a eu aussi les médias qu'on fait, ils nous ont tellement craché dessus, et,
oui,
et
oui.
Que les gens avaient peur. Nous, on en a vu sur le rond-point, hésiter à venir, puis finalement passer le pas, mais qui nous disaient non, j'osais pas, vu ce qu'on entendait sur les gilets jaunes. Les médias ont fait leur travail aussi de sape à longueur de journée. Donc quand on entend toute la journée les gilets jaunes ceci, les gilets jaunes cela, nanani, nanana, arrive un moment, c'est comme le Covid, hein. Ça rentre dans la tête et tu peux plus le sortir.
Et je voulais juste finir, du coup, c'était sur... moi, ce que j'ai aimé dans le mouvement, c'était ce côté spontané, un peu foufou, et puis populaire, quoi. Un truc, voilà, qui envoie le merdier, quoi. Et du coup, par contre, au bout d'un moment, en fait, quand il y a moins de monde et il n'y a plus toutes ces masses dans la rue, les gens, et des fois, ils étaient « Ouais, faut y aller, machin, et tout, bah ouais, mais bon, on fait quoi maintenant, on n'est plus beaucoup ?» Et puis, je pense qu'il y a un moment, il y a quand même la nécessité aussi de... on l'a fait, hein, mais de se former plus politiquement, mais tout le monde l'a fait. Mais de continuer à ça, et pas juste de dire « Ouais, non, machin, on revient au début », comme s'il fallait répéter l'histoire, pardon, à chaque fois. Souvent, il y avait ce truc-là qui venait. Et sur les réseaux aussi, le côté pensée magique. « Ouais, bougez-vous, machin, et tout. Ouais, bon, d'accord, mais on organise quoi ? Qu'est-ce que tu fais pour que, je sais pas, il y ait un truc cohérent qui s'organise ?» Donc voilà, moi, c'est... Et dans les côtés, c'est vrai, non, bah, je vais laisser la parole, du coup, je me perds. Vas-y, Camille.
Non, ouais, par rapport à ce que disait Nico, donc tu l'as redit, je l'avais redit. Donc la question, c'est effectivement quand est-ce qu'on arrive à étendre un peu nos revendications. voilà, la nécessité de changement aux autres, aux classes directement supérieures. Peut-être c'est même pas nous qui allons le faire, peut-être c'est le gouvernement, hein, par sa politique destructrice qui finalement arrivera à le faire, quand les gens de la classe directement supérieure auront la tête juste au-dessus, voire limite en dessous du niveau de l'eau, peut-être que eux réagiront aussi. Mais effectivement, on n'a pas réussi à casser ce mépris de classe, qui est important. Et la deuxième, pour moi, le deuxième enseignement, ça rejoint aussi ce que disait Nico, et on l'a vu un peu avec les autres mouvements internationaux qui ont suivi, que ce soit au Chili, à Hong Kong. Bah, Hong Kong, c'est encore bien différent. Ils ont chacun leur spécificité. Mais le Chili, je trouvais intéressant parce que, ou même les États-Unis, là, dernièrement, avec le mouvement Black Lives Matter, même si, voilà, encore une fois, il y a des spécificités, c'est de se rendre compte que quand tu as un mouvement social globalement apartidaire, assez instinctif qui naît comme ça, s'il a des bases pré-révolutionnaires, comme ça a pu par moment être le cas, il faut aller très vite en fait. Parce que la répression, au début, l'État, effectivement, comme tu disais Sébastien, en septembre, voilà, pris par surprise, novembre, pris par surprise, globalement, jusqu'au mi-décembre, l'État est à peu près pris par surprise en France.
Ils y croyaient pas.
Ils y croyaient pas, ouais, ça va s'essouffler, machin. On va mettre quelques flics dans les black blocs, ça va. Voilà, l'opinion publique va se casser la gueule.
Puis sur les ronds-points, ils ont mis des flics dans les ronds-points aussi.
Ou aussi, oui, bien sûr. Mais
faut rappeler qu'ils ont. Après le 1er décembre, ils ont mis le paquet au niveau flics pour l'accession. Et démantelé après les ronds-points.
Mais justement, donc en gros, il y a eu un mois où le mouvement dans la rue a vraiment été, on va dire, à peu près maître de son destin, et derrière, on s'est fait défoncer la gueule. Mais vraiment défoncer la gueule à tous les niveaux, quoi. Et ça continue. Donc, ce temps de réaction... En fait, c'est ça qui est compliqué, parce que la création de ce mouvement qui sort de gens qui se connaissent pas, si on veut que ça aille loin, il faut mettre vraiment à profit, je pense, c'est un des enseignements pour les prochaines luttes, parce qu'il y aura prochaines luttes, après, à plus ou moins long terme, ça, on sait pas, mais... il faut mettre à profit absolument le début d'un mouvement pour surprendre l'État. Parce que derrière, effectivement, la répression, qu'elle soit dans la rue ou judiciaire derrière, parce que le nombre d'inculpés, il est absolument phénoménal. Big up d'ailleurs à tous les gens qui sont encore en prison, parce que une pensée à eux. Il n'y a pas que ceux qui sont morts ou qui ont perdu un œil ou une main. Et Dieu, s'ils sont nombreux. Dieu sait s'ils sont nombreux, pardon. Voilà, le laps de temps, il est très court pour essayer de déstabiliser l'État, quoi. Et ça, je pense que c'est un des enseignements majeurs qu'il y a à prendre en compte, parce qu'au Chili, là, ils ont obtenu une victoire importante, mais ils ont pas... Voilà, on est loin de ce qu'ils veulent vraiment, même si c'est déjà très bien. Black Lives Matter, ils se sont fait défoncer, pareil. On parle pas des autres pays. Et je pense que c'est vraiment un point capital, quoi. En fait, c'est ça qui est dur, parce qu'il faudrait presque arriver à être prêt quand le mouvement commence pour vraiment déstabiliser l'État. Et ça, c'est compliqué sur un mouvement qui est assez... qui est pas si structuré que ça, initialement, quoi. Enfin, voilà. Je vais laisser la parole.
Ouais, c'est peut-être un des trucs aussi où on manquait certaines personnes militantes pour revenir sur ce qu'on disait, parce que le mouvement il a été vachement dénigré dans les médias traditionnels, dominants, tout ça. Mais moi du coup j'ai croisé des gens des milieux, on va dire, militants plus traditionnels. Et en fait, qui me répétaient le discours de BFM. Or, normalement, c'est pas des gens qui regardent BFM. Et j'avais beau leur dire que c'était des conneries, enfin voilà, c'était littéralement BFM. Tu voyais bien qu'il y avait une réticence, il y a le truc du mépris de classe, mais il n'y a pas que ça. Il y a en vrai pas mal d'organisations militantes qui sont plus des... Enfin, en tout cas, qui sont pas révolutionnaires et du coup, qui se sentent mises en cause par un mouvement indépendant, quoi, en gros. Donc, ça, c'était typiquement l'attitude de pas mal de personnes syndicalistes. Et c'était... Bah, pour le coup, là, ils croyaient ce qu'ils se racontaient sur BFM. Or, ça avait pas de sens.
Ouais, c'est ça qui est assez dingue, c'est que t'entends des gens, des fois, qui te disent... Moi, je me rappelle d'avoir croisé un Parisien il n'y a pas longtemps qui disait « J'en voudrais toujours au Black Bloc d'avoir détruit le mouvement. » Et le gars était syndiqué, mais j'avais envie de lui dire « Mais moi, j'en voudrais toujours au syndicat d'avoir pas appuyé à ce moment-là, quoi. Hein, où vous étiez, quoi. » Alors, il y avait bien sûr qu'il y avait des syndiqués dans le mouvement, c'est pas ça qu'on dit, mais il y avait moyen de potentialiser le truc et ça n'a pas été fait.
On rappelle aussi que, pardon, c'est juste une info comme ça, c'est que les routiers, ils avaient un pouvoir de blocage sur le pays. Et ils ont été, ils sont allés signer direct. Ouais, c'est bon, ce que Macron leur proposait. Et là, il n'y a pas eu l'appui syndical. Je crois que c'était en décembre, de mémoire, début décembre.
Ça a toujours été comme ça. Et, hein, à partir du moment où Macron commence à donner, Macron ou les autres gouvernements commencent à donner quelques petites miettes.
Et là, on voit que ce côté secteur par secteur,
divisé pour mieux régner.
Comment dire, tu vois, la catégorisation, comment on appelle ça, le corporatisme, voilà, ça a amené ça. Et moi, je voulais juste rajouter vite fait, c'est sur. Moi, j'ai quand même eu un peu une déception aussi, enfin, de. Cette gauche un peu qui a abandonné la classe ouvrière et des gens en fait qui se disent de gauche machin et tout et qui avaient du mal à en gros les gilets jaunes c'était pas assez bien pour eux, ils pensent mal, ils puent les pieds et puis voilà quoi et là là il y a une espèce de mépris de classe quoi et c'est pour ça que enfin voilà moi ça m'a pas mal déçu ça quand même.
Par rapport aux syndicats, je pense que les syndicats ils ont été un peu vexé que en fait un mouvement populaire qui vient de la rue arrive à mobiliser plus de gens que mobilisés à leur manif et comme en fait ils sont bien structurés ils ont des codes et que nous on n'avait pas de code et ben ça les déconcertait donc ils voulaient pas s'associer à nous et puis on leur faisait de l'ombre. On l'a bien vu quand on s'est associé à eux aux manifestations, qu'on n'avait pas le droit de parole, qu'il fallait qu'ils soient toujours devant avec leur banderole devant. Voilà, on a bien vu, il y a quelques... Les syndiqués, je ne parle pas... les syndiqués, il y avait pas forcément quelque chose contre nous, mais les pontes
les bureaucrates syndicaux.
Voilà, qui sont bien assis sur leur siège là, depuis plusieurs années.
Qui sont caressés au sens du poil.
Voilà. Et donc, je pense que, ouais, on les a un peu... ils ont été vexés de l'ampleur du mouvement, de voir qu'on pouvait mobiliser sans leurs moyens, parce qu'ils ont des moyens, ils ont quand même 17 millions d'aides de l'État, voilà. Et l'État, c'est aussi nous. Et donc, je pense que voilà, ils ont été vexés qu'on mobilise plus que... voilà.
Et juste un aparté, en même temps, on dit ça là, mais ça serait se tromper aussi sur ce qu'est un... syndicat à l'heure actuelle, quand on voit comment ça a été récupéré effectivement par l'État, ça pose aussi la question. Et on n'a jamais eu une notion d'ailleurs des jeux de pouvoir qui ont eu lieu à cette époque-là, parce qu'il y a dû en avoir, pour que justement les syndicats ne se mettent pas dans la balance.
Bien sûr.
Et puis quand on voit des manifestations de syndicats, les syndicats ils représentent que 8% des salariés. Et quand on voit les manifestations, ben c'est que les syndicats qui parlent. Mais par exemple, il n'y aura pas de chômeurs, il n'y aura pas de gens précaires. C'est toujours les ponts, hein, les chefs quoi, qui parlent. Quoi. C'est toujours c'est dans la bureaucratie, la pyramide et tout ça. Et voilà, et c'est peut-être aussi pour ça que les gens ne se mobilisent pas en manifestation syndicale.
Ça fait 40 ans qu'ils sont dans la rue, ça fait 40 ans qu'ils rentrent chez eux dès qu'on leur donne une petite cacahuète. Je prends cet exemple parce qu'elles sont devant moi. Non mais c'est la vérité, à chaque fois qu'ils sont sortis dans la rue, on l'a vu avec les routiers, on l'a vu avec les agriculteurs, on le voit avec tous les corps de métier. Le gouvernement les attaque, derrière il leur donne des petites brindilles et tout de suite tout le monde rentre chez soi. Pour moi, c'est pas comme ça qu'ils arriveront à faire quoi que ce soit. Et la preuve, ça fait des années et des années qu'ils sont dehors. Et on l'a bien vu, nous, sur les manifestations des Gilets jaunes à Brest, où on a pu être 5000, ils étaient une centaine en bas à nous attendre. Et pourtant, voilà, 15 jours avant, ils nous disaient qu'ils nous crachaient dessus en disant qu'on serait 20 pèlerins dans la rue. Et voilà, ça leur a fait mal. Et ça a été pareil dans toutes les villes, ça n'a pas été que Brest en général.
D'ailleurs, sur ce que tu dis, effectivement, c'est bien là où on voit la problématique, parce que quand on voit la problématique, par exemple, de la réforme, contre la réforme, pardon, des retraites, les premières manifs à Brest et partout en France, il y avait vachement de monde sur l'appel des syndicats, et le fait que, parce qu'au début, en fait, leur discours, c'était de dire, oui, mais vous rejetez les syndicats, mais en fait, le problème, c'est pas tant ça, c'est que eux ont rejeté le mouvement, parce que le mouvement leur a fait, je pense, peur, parce que justement pas capable d'avoir la main mise dessus parce que s'il n'y a que 100 mecs place de la liberté quand nous on passe c'est qu'en fait la tête syndicale n'a pas appelé et que les 100 mecs en fait c'est des syndiqués je pense complètement honnêtes motivés qui ont compris notre truc et il n'y a que eux qui sont là mais le reste de la masse il n'a pas été là alors qu'ils ont un pouvoir d'appel quand même qui reste minimal dans la société mais quand même important.
Juste pour info aussi je me rappelle que tous les syndicats savent solidaires. Bon, la CNT, évidemment, parce que... Mais bon, Moins quand même, faut bien le dire, ont condamné les Gilets jaunes par rapport à la violence. Je crois que c'est encore décembre de mémoire, voilà, et tout. Et là, c'est quand même assez significatif, quoi, de leur mode d'action et tout ça. Ouais, tu voulais réagir ? Et est-ce que Lisène, Brigitte, vous voulez dire quelque chose encore sur ce...
Il y a beaucoup de choses à dire.
Oui, vas-y. Oui.
Mais on peut, par exemple, par rapport aux syndicats, les syndicats ne représentent plus les ouvriers, mais les ouvriers ont laissé faire ça aussi, en fait. Ça fait 40 ans qu'on laisse les syndicats aux mains de gens qui sont proches des patrons, qui sont proches du pouvoir. À aucun moment, les ouvriers, ces 40 années-là, se sont révoltés, ont récupéré ces syndicats-là. En fait, on peut cracher sur les syndicats aujourd'hui, comme on peut cracher sur le gouvernement, mais qui les a mis en place aujourd'hui, ça reste comme nous, en fait. On a quand même laissé faire tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui m'ont un peu dérangé. Et par exemple, quand on parle de fraternité, ça m'énerve un peu, parce que voilà, moi, je me bats contre le patriarcat. Et que les hommes soient solidaires entre eux, qu'ils le fassent, moi, j'en ai rien à foutre. Il faut peut-être qu'on parle un peu plus d'humanité, d'adelphité, par exemple, parce que c'est beaucoup plus inclusif que fraternité. Et il faut vraiment qu'on parte dans un dialogue, qu'on arrête de parler de lutte des classes aussi, parce que la lutte des classes s'est dépassée, ça fait des années. Des siècles, tout. On s'en fout, la lutte des classes. Aujourd'hui, il y a 1% de la planète qui possède plus de 50% des richesses. Et c'est ce qui fait que, bah, du coup, ces gens-là polluent. À cause d'eux, on crève de faim. Et encore, nous, on crève de faim en France. On a quand même plus ou moins un toit en France, malgré qu'il y en a de plus en plus qui n'en ont pas. Mais c'est aussi ces gens-là qui font qu'en Afrique, et bah, la sécheresse s'installe, et puis il y a les bidonvilles, etc. Et que les Africains viennent en France, ou en Europe, ou aux États-Unis, pour espérer d'avoir un petit Eldorado, ce qu'on leur promet là-bas. Il faut qu'on réfléchisse un peu aux termes qu'on utilise, je pense, pour essayer d'inclure le plus de monde possible. Et faut aussi préciser aux gens, en fait, qui se demandent comment on peut rejoindre un mouvement, que en fait, la lutte ne s'arrête pas aux manifestations ou à l'organisation des manifestations. La lutte, ça se passe au quotidien. Là, par exemple, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on n'a plus de sourire. On n'a plus de visage, on n'a que du mépris des gens. Moi, je me balade dans la rue sans masque. Les gens, ils changent de trottoir parce que j'ai pas de masque. Ben, je m'en fous, je souris. Rien que de sourire dans la rue, c'est déjà un moyen de lutter, en fait. Il y a différents moyens de lutter. Un bonjour. On a trop de distance, on connaît plus nos voisins. Rien que d'aller toquer à la porte du voisin et lui proposer un morceau de gâteau, c'est déjà une façon de lutter. Et petit à petit, comme ça, et ben, on va réinstaurer du dialogue entre les gens. Et peut-être qu'à un moment, on va réussir à avoir assez de force pour faire péter tout ça, quoi.
Je voulais juste préciser, moi, quand je disais lutte des classes, bah, je disais la même chose que toi. Hein. Enfin, c'est juste des questions de mots. Moi, ça me va.
Moi, c'est vraiment lutte des classes.
Non, mais c'est une question de mots. Après, voilà, après, si le mot, il ne va pas, tu peux dire contre les 1%, tu peux dire contre l'oligarchie. C'est sensiblement dire la même chose. Hein. Et moi, quand je dis lutte des classes contre les 1%, ça nécessite une alliance de classes. Et étant donné que là, avec l'appauvrissement là, qui va arriver et tout ça... Pour moi, c'est jouable, parce que là, on a vu que c'était les grandes entreprises et une espèce d'aristocratie d'État aussi au niveau du personnel politique et dans la bureaucratie de l'État, quoi, qui dirige le pays. Et là, les petits commerçants, ils vont s'appauvrir, tout le monde va s'appauvrir, et donc, il y a vraiment une alliance qui peut se faire contre ces 1%. Donc voilà, c'est juste, je pense qu'il ne faut pas rester bloqué sur la terminologie.
Important, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'y a pas des gens qui bougent, parce que là, il y a un nouveau mouvement, c'est le CNR, mais en fait, il n'y a rien de nouveau, encore une fois, et en fait, ça reste toujours la même chose, et en fait, on se rebat plus ou moins pour les mêmes choses. Il y a rien qui bouge, en fait.
Quand même dans le titre.
Oui, ils ont mis nouveau.
Ben, moi, c'est un truc que je reproche aussi pour avoir fait les assemblées des assemblées. Oui, à un moment, tu te retrouves, le brainstorming, t'écris des constitutions, des idées, des machins, tout ça. Mais ouais, d'accord, mais...
On n'a pas les moyens pour les appliquer.
Voilà, exactement. Et il y a un moment, bon, il faut surtout, en fait, faire des choses concrètes, quoi. Pour pouvoir, par exemple, étendre son réseau, militer, se connaître, pouvoir organiser des trucs. Et refaire le monde sur des bouts de papier. Tiens, j'aimerais bien sortir du capitalisme. Ok, je note. Enfin, voilà, c'est bien beau, mais le rapport de force, on l'a pas et tout ça. Enfin,
on l'a pas pour le moment.
On l'a pas pour le moment.
Je pense que c'est ce que les gens ne voient pas, c'est qu'ils pensent qu'en un an, deux ans, on va gagner quelque chose. Sauf que les batailles, on l'a toujours eu, ça dure des années et des années. C'est tout se met en place petit à petit, du jour au lendemain, t'as pas ce que t'as envie. Surtout qu'eux, en face de nous, ils ont de l'argent, ils ont le pouvoir, on le voit très bien. Ils contrôlent ils ont la police, ils contrôlent les réseaux sociaux, ils contrôlent les journalistes. Donc pour se faire un réseau, pour se faire quelque chose, il faut passer autrement. Et c'est là où on n'arrive peut-être pas, où on prêche un petit peu. Et qu'il faudrait peut-être faire comme à l'ancienne, plus passer sur du contact visuel et téléphonique. Plutôt que, même le téléphone, ça devient compliqué. Mais plutôt que de passer sur des réseaux où on sait très bien qui sont dessus du matin au soir. Et la communication ne passe pas. On voit les appels. Je parle de Brest, hein. Je vois sur Facebook, parce que je regarde beaucoup Facebook, parce que j'ai que ça à faire en plus, les appels, il y a des appels tous les jours sur Facebook. Le problème, c'est que la moitié des gens ne les voient pas, parce que Facebook supprime, bloque les publications, ou bloque les messages, donc ça n'avancera pas comme ça. Et tu vois les gens derrière dire, j'ai fait un appel, il n'y a personne, personne ne bouge, personne ne vient. Mais c'est logique et en même temps, ça ne l'est pas. C'est logique parce que les gens ne vont pas faire l'effort d'aller voir ailleurs que sur les réseaux sociaux. Ils ne vont pas essayer de contacter les personnes qui organisent des choses ou qui essayent de faire bouger les choses. Ils attendent que ça leur tombe dans les mains. C'est ce que je dis depuis le début du mouvement. Beaucoup de personnes critiquaient tout ce qu'on faisait ou tout ce qu'on ne faisait pas. Et beaucoup de personnes attendent qu'on les prenne par la main pour aller faire quelque chose. Il y en a beaucoup qui disent qu'il faut aller casser pour que ça bouge. Bah, n'attends pas que je te prenne par la main. Si tu as envie, si tu as envie de casser, tu vas, tu casses et tu assumes tes actes. Non, mais c'est un petit peu les reproches qu'on avait tous les jours. Arrive un moment, t'as beau leur dire, t'as beau leur expliquer. Dans les AG, c'était personne. C'était pareil, il y a des personnes, il faut taper fort. Mais rien ne t'empêche de faire un flyer. De prendre du monde avec toi, il n'y a pas besoin d'être 200 000, vous êtes 500-600, et ben si vous voulez péter, la sous-prêve, vous la pétez. Mais arrive un moment, si chacun attend que son voisin lui donne la main pour aller faire quelque chose, on ne peut pas avancer.
C'est un peu comme dans la vision syndicale. Tu demandes des fois, alors il se passe quelque chose dans votre entreprise, ah, je sais pas, il faut demander à la tête syndicale. Bah, je sais pas, tu n'es pas au courant, tu vois. Oui, c'est aussi être capable d'aller prendre l'initiative, effectivement, cette question-là, elle est vitale. Mais c'est la question du temps derrière aussi. Qu'est-ce que je fais de mon temps? Est-ce que je l'octroie? Est-ce que je laisse une petite part de mon temps personnel octroyé à ça, à aller prendre les devants?
Encore une fois, c'est l'argent qui... Excuse-moi, Manu.
Non, c'est pas grave, mais en ce moment, les syndicats, là, je vous dis ça parce que j'ai vu lors du jour de Solidaire, c'est comment décorer leur...
La crèche de Noël?
Non, leur... tu sais, leur... où ils vont, là, la Maison du Peuple? Ouais. C'est ça l'ordre du jour, comment décorer et aussi pour mettre en avant leur site internet. C'est ça leur ordre du jour. Parce qu'il y a quelqu'un qui a envoyé comme quoi il y avait un appel samedi à 13h30 place de Strasbourg. Et alors qu'est-ce qu'on fait? Faut les rejoindre. Et, ah non, le Covid, nanana. Et donc l'ordre du jour, et donc ils sont bientôt en réunion là. C'est la décoration de leur salle là, et la mise en page de leur site internet. Et autrement, voilà, toutes les questions existentielles, et voilà, il n'y a pas.
tu veux peut-être réagir. Mais c'est vrai, mais ça me fait penser à toute la multiplication des appels, des tribunes pendant le confinement. On refait le monde d'après. Bon, il y a un moment, c'est un peu neuneux aussi. Quoi. Enfin, t'es là,
ouais,
bon,
c'était l'année dernière, le monde d'après. Là,
je sais plus quoi. Ouais. Je crois que c'est dans 50 ans, le monde d'après. Mais et sur ce que tu disais, Seb, mais c'est vrai que c'est assez pénible. En fait, c'est au bout d'un moment où les gens, faut faire ci, faut faire ça. Mais en fait, t'as personne qui fait rien. Et souvent, c'est une poignée de personnes qui font les choses concrètes, quoi. C'est-à-dire écrire un tract, faire l'événement Facebook, faire le machin, enfin tout. Mais vraiment, les trucs, là, on est sur la com, mais aussi d'organiser la manif, où on va, qu'est-ce qu'on fait, machin. Et à un moment, en fait, les gens s'épuisent, c'est une poignée, et puis...
C'est comme dans une entreprise. Hein. Bah, une entreprise, il y a les syndicats, mais au jour d'aujourd'hui, s'il se passe quelque chose dans l'entreprise, tout le monde va être « Ouais, putain, faut bouger, faut faire ci, faut faire ça. » Mais personne ne va prendre l'initiative de dire « Bah écoutez, on y va, on casse la porte et on va taper sur le bureau pour savoir ce qu'on doit faire ou pas. » C'est que l'argent encore domine la conscience, je pense, de chaque personne, et on est dirigé que par ça. une poignée d'argent par ici, une poignée d'argent par là, chacun rentre chez soi, ou on voit très bien, sur la métropole ici, il y a eu des manifestations avec des éboueurs. Moi, j'y ai été avec eux dès les premiers jours où ils y étaient. La seule chose que j'entendais, c'est « Ouais, mais le syndicat veut pas qu'on fasse ci, le syndicat veut pas qu'on fasse ça. » Donc, ils ont dégonflé les roues des camions, le syndicat, il était pas content. Après, c'était savoir s'ils allaient avoir leur prime ou pas. Donc, ils sont allés voir le maire de Brest-Cuyandre, qui fait partie, enfin, qui est directeur aussi du B de machin. Et finalement, qu'est-ce qu'il leur a dit? Bah, écoutez, on va attendre un petit peu, puis vous aurez vos primes après.
Ah non, c'est pas ça, il a dit, faut attendre les élections.
Ouais, c'est ça, faut attendre les élections.
C'était une promesse, c'était votez pour moi. Bah, si vous votez pour moi, gros, vous aurez votre prime. Si vous votez pas pour moi, vous l'aurez pas.
En gros, c'est ça, ils ont été caressés dans le sens du poil. Ils ont tous dit oui, oui, on votera pour toi, parce qu'ils savent très bien que dans les entreprises, la majorité feront pareil que le syndicat et ainsi de suite. Donc voilà, mais le gros point noir de tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, c'est l'argent. T'as plus d'argent, t'as plus personne qui va se soucier de ce qui se passe à droite à gauche.
Ouais, mais après, je suis pas vraiment d'accord, parce que je me dis, les gens qui gagnent, qui sont précaires. Moi, je gagne 900 euros par mois. Je travaille, et pour avoir un SMIC, je suis obligée d'avoir deux boulots. J'ai quatre enfants et tout ça. Et donc, si on me pénalise et tout ça, bah, alors après, c'est mes enfants qui n'ont pas à bouffer. Donc, à un moment donné, t'es obligée aussi de te protéger. Donc c'est la société qui fait ça, c'est pas que les gens ils ont pas envie.
Ah oui, non, mais c'est ce que je dis,
c'est la société. Que les gens, c'est pas qu'ils ont pas envie, c'est qu'ils sont tellement, c'est tellement serré leur compte, ou tu
mais
vois.
C'est ce que je te dis, en fait le problème de cet argent là, c'est que c'est le gouvernement, c'est où, comment tirer les ficelles.
Bah, c'est pour ça qu'ils ont pas augmenté les SMIG et qu'ils ont dit on va augmenter la prime d'activité.
Diviser pour mieux régner, ça a toujours été comme ça. Il y a 20-30 ans, t'allais voir ton voisin, t'avais besoin de quelque chose, ton voisin il te le prêtait ou il venait t'aider. Au jour d'aujourd'hui, tu peux demander à... Même maintenant, avec des amis ou quoi que ce soit, c'est très compliqué d'avoir quelqu'un qui vient venir te filer un coup de main. Si tu mets pas un billet derrière, le mec...
Non,
mais...
Change d'amis, hein.
Non, mais ce que je veux dire... Non, mais j'ai des amis qui... Ce que je veux dire, c'est que... Aujourd'hui, plus personne se connaît, plus personne ne cède, plus personne ne...
Non, je suis pas d'accord.
Non, mais je parle... Oui, vous vous aidez, mais je parle
dans les grandes lignes, quoi. Il a raison d'une certaine façon.
Mais bien sûr que oui. Toi, je te donne un exemple tout bête. J'ai mon voisin, là, de coup, donc il est en train d'essayer d'arracher sa haie avec sa voiture, avec une corde. Moi, j'habite à 50 mètres, j'ai une mini-pelle, j'écoute, bouge pas, je suis là dans 5 minutes. Il voulait pas, non. Bon, bref, je prends ma mini-pelle, je viens, je lui arrache son tronc d'arbre. Il va me chercher un billet de 50 balles. Il me dit, tu fais quoi? On est voisins. Si demain j'ai besoin de toi pour venir m'aider, tu seras là. Et pourtant, c'est une personne qui a 60 piges, quoi. Il me dit, ouais, mais il me dit, il y a 20-30 ans, on le faisait. Mais maintenant, c'est compliqué de trouver quelqu'un pour venir te filer un coup de main. Et on le voit très bien. Il y a quelqu'un qui tombe en panne avec sa voiture sur le bord de la route, puis personne ne s'arrête. Quelqu'un qui fait du stop, c'est très compliqué au jour d'aujourd'hui. Le gouvernement a mis en place une stratégie, mais depuis des années et des années, pour diviser les gens. Dans une entreprise, c'est pareil. On va donner une prime à celui-là parce qu'il a mieux travaillé que celui-là. Alors pourtant, ils ont fait exactement le même boulot. Mais c'est juste que comme ça, entre les deux, il va y avoir une tension qui va se mettre en place. Et du coup, bah, ils vont pas s'entendre comme il faut, et puis ils vont réussir à les tenir comme ça.
Ben, ce que tu dis là, c'est l'atomisation des gens, donc chacun est de sa petite niche, quoi, machin comme ça, mais ça vient vachement du monde du travail, en fait, avec la casse du CDI et le développement de l'intérim et tout ça, et ça vient de loin, quoi. Ça vient notamment aussi des années 70-80, avec la désindustrialisation, la montée du chômage, et donc du coup moins de pouvoir de négociation pour les ouvriers, pour les syndicats et tout ça, donc baisse syndicale et tout ça, enfin voilà, c'est pour le contexte. Et est-ce que quelqu'un veut...
Et l'aspect de compétition dans l'éducation aussi.
Dans tout, ouais.
Oui.
Apprendre à ne pas forcément aider son prochain. Lisanne, tu parlais de fraternité, de Moctempo, ok, mais en tout cas de solidarité, hein, je pense.
Ouais, ça, Adelphité.
Ouais, mais les gens comprennent pas ça.
Je connais pas ce mot-là. Ça veut dire
Adelphité, c'est un terme neutre pour nommer sœurs et frères.
D'accord, ok. L'adelphité entre nous.
Ça, c'est ce qu'on a retrouvé dans le mouvement du Gilet jaune, justement, et c'est ce qui a fait sortir beaucoup de monde, au début, du moins. Parce qu'ils voyaient que les gens s'entraidaient, et nous on l'a vu sur les ronds-points, j'étais quelqu'un qui s'était vachement isolé, je ne voulais plus voir personne parce que la société me rendait un peu folle. Je venais d'un quartier justement où tout le monde s'entraidait au début, puis finalement plus personne ne s'aidait. Donc je suis parti m'isoler à la campagne, et le jour où je suis sorti, j'ai retrouvé ce que je vivais quand j'étais gamin, quoi.
Après, tu vois, pour revenir un peu sur aussi le devenir, tout ça... c'est vraiment la question de l'éducation. Moi, je tiens. Quand tu vois les mouvements, hein, on va pas refaire l'histoire, mais comme en Espagne et tout ça, les mouvements révolutionnaires, anarchistes et tout ça, il y a des gens qui s'emparent de la question éducative parce qu'ils ont compris aussi que le changement, il se fera sur le temps long. On parlait de ça tout à l'heure, la lutte, c'est du temps long. Ambroise Croizat, il disait pareil, ne désarmez jamais parce que le capital est toujours prêt à détourner vos acquis sociaux. Et tout ça, c'est permanent. Mais ce qui est bien dans la perspective des Gilets jaunes, c'est qu'au moins... Parce qu'il y avait beaucoup de gens au début qui sont arrivés et qui croyaient effectivement que ça allait changer très vite. Que ce mouvement-là... Au début, on était parti pour 15 jours. Ben, allez, une semaine. Et puis au bout de 15 jours, ah, bon, peut-être qu'on est parti pour un mois. Et puis au bout d'un mois, on est peut-être parti pour deux mois, et ainsi de suite. Quoi. Ça s'est vachement éternisé. Mais on a aussi appris, si on ne le savait pas déjà, que voilà, ça se fait sur le temps long. Et ça, je pense que c'est un des gros points positifs aussi. C'est qu'on a compris que c'était une lutte quotidienne. Quoi. Et je pense qu'il n'y a pas que les gens qui se sont mis dedans qui ont appris ça. Il y a aussi les gens, peut-être que ta grand-mère, Manu, et les gens qui ont suivi un peu de près, les familles, parce qu'il y avait les gens sur le terrain, mais derrière chaque personne sur le terrain, il y avait une, deux, trois, quatre, cinq personnes qui partageaient ou pas les idées, mais en tout cas qui comprenaient un peu ce qui se passait et qui voyaient, quoi.
Après, moi, ce qui me fait peur, c'est que donc, quand je discutais avec ma grand-mère, tout ça, elle me disait oui, donc elle était avec ses amis, tout ça, donc 85 ans, vous imaginez. Et donc, toute l'après-midi, c'était « Ouais, Macron, c'est un connard ». Enfin, bref, c'était toute la journée. Je dis « Ah, bah, j'aurais passé une bonne journée avec vous, hein ». Mais le problème, ce qui m'a choquée, et elle aussi, hein, c'est que les gens, ils ont dit que la prochaine fois, ils allaient voter Le Pen. Et ça, j'ai dit. Et ma grand-mère aussi, parce que ma grand-mère, elle a voyagé dans plein de pays. Et donc, ma grand-mère, elle est ouverte, elle n'est pas fermée sur son petit nombril. Et ça lui a fait peur, mais elle me dit, j'ai même pas osé en parler, parce que comme ils étaient tous, ils étaient plus qu'elle, elle s'est dit, elle avait peur de donner son opinion, donc elle les écoutait, mais elle me dit que, ouais, elle a peur, quoi. Elle a peur pour après, si voilà, enfin bref.
Ouais. Quelqu'un veut réagir à ça, ou...
Bah, vu qu'on a au pouvoir aujourd'hui, et comment c'est fait, et qu'on voit qu'en plus, Marine Le Pen... elle a des liens avec Macron et qu'ils sont en train de négocier des lois ensemble.
Et reçu Place Beauvau.
Que ce soit Marine ou Le Pen, perso, moi je pense que le danger est le même.
Macron.
Ah oui,
Macron
oui.
Ou Le Pen.
Marine ou Le Pen. C'est la même chose. Non, mais peu importe le parti. Peu importe le parti aujourd'hui, on voit très bien que c'est pas eux qui dirigent.
Mais le...
Ça va beaucoup plus loin que ça.
Comment dire, oui, c'est vrai que Macron prépare un peu le terrain pour Le Pen. Elle aura plus qu'à, si elle était élue, en fait, il aura déjà tout, un peu tout fait, quoi. Mmh. Enfin, même au niveau de la répression et tout ça. Mais à mon avis, parce que un discours qu'on entendait pour avoir discuté avec certains gilets jaunes, c'était ouais, de toute façon, bah ouais, Le Pen, comme ça. Donc soit on n'a pas essayé, on n'a jamais essayé, ou soit pff, le merdier, et comme ça, les gens bougeront et tout. Mais moi, j'ai bien peur que vu comment l'État est répressif actuellement. Avec Le Pen, ça serait encore pire, quoi. Et que du coup, c'est, enfin, au moins autant.
Je sais pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas dans la rue parce qu'ils ont peur de croiser les flics, en fait.
Mais oui, mais
que ça soit Macron, que ça soit Le Pen, les flics, ce sont les mêmes, en fait.
Ça serait sûrement encore pire. Il faut savoir que 50% des flics et gendarmerie aussi armée.
57.
On va dire environ 50% votent pour le Front National. Bon, moi je pense que ça serait au moins autant, aussi pire, mais il y a des risques que ça soit encore pire, quoi. Parce que là, ils se sentent très pupissés, quoi. Mmh. Déjà qu'ils sont un peu en autonomie, là, les flics, ils font un peu ce qu'ils veulent, ils font des manifs avec leurs armes, tout ça, enfin, tout va bien, quoi. Fin...
Excuse-moi, mais de toute façon, pourquoi on parle. Ben, on aura compris quelque chose et on aura vraiment avancé quand déjà on aura compris que c'est plus derrière une figure tutélaire qu'il faut se ranger, quoi. Ah. Ça, on en est très, 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 très loin. La population n'est pas encore du tout prête à ça. Mais pourtant, c'est vers ça, à mon avis, qu'il faut aller. Parce que quand tu vois les élections américaines, Trump-Biden, c'est encore la peste ou le choléra de la même façon. Tant qu'on sera là-dedans avec les enjeux qui s'opposent à nous, tant sur le plan social qu'écologique et ainsi de suite...
Je suis d'accord complètement avec toi. Mais peut-être, si on peut tirer un truc positif... des mouvements sociaux, des gilets jaunes et d'avant, là. Parce qu'en fait, il y a une histoire aussi, hein, des mouvements des places, etc. C'est que justement, quoi, c'est des gens qui étaient dans l'organisation horizontale, on va dire comme ça, et qui ne voulaient pas de figure tutélaire. Ouais. Donc, bon, c'est pour peut-être un petit coin, un petit espoir optimiste sur les mouvements sociaux ces dernières années, quoi. Ouais. Après, là, oui, on est enfermé, en fait, là, si on commence à causer élection Macron-Le Pen, on est déjà enfermé, en fait.
Ouais. Il n'y a pas de solution. Ils sont tous pareils, de toute façon. Ils mangent tous dans la même assiette.
Est-ce que ça va pour cette deuxième partie? Parce qu'on est en train d'empiéter un peu sur la troisième, qui est que peut devenir le mouvement des Gilets jaunes, où il y aura la question des élections notamment. Quelqu'un veut dire encore quelque chose?
J'ai juste une question pour Brigitte, parce qu'elle parle pas beaucoup, mais je trouve qu'elle a dit quelque chose de très fort tout à l'heure, et je vais lui demander, t'as toujours honte du coup? Parce que t'as dit tout à l'heure que t'avais honte avant le mouvement des Gilets jaunes d'être ce que tu étais, de penser ce que tu pensais.
Non, de sa situation, par exemple, quand t'es chômeur...
Situation sociale. Et du coup, avec ce mouvement-là, t'as toujours honte ou pas?
Je pense pas avoir dit que j'avais honte.
T'as dit que t'avais honte de ta situation sociale, parce que souvent, gens disent que les chômeurs, c'est des bons à rien et tout ça, et que... T'as dit que t'avais honte, c'est peut-être ton inconscient qui a dit ça, sans que tu penses vraiment, mais du coup, c'est quand même significatif, quoi. T'étais dans une phase de honte, quoi, avant ce moment.
Non, j'ai pas honte. J'ai plus honte, en fait.
Il n'y a pas de honte,
voulu dire, peut-être, c'est que le mouvement des... grâce au mouvement des Gilets jaunes, je rencontrais des gens comme moi, et du coup, on n'avait plus honte. Enfin, j'avais plus honte. Enfin, le fait d'être à plusieurs dans la même situation, peut-être que j'ai voulu dire ça. Ouais. J'ai plus honte. Aujourd'hui, c'est un combat, en fait. Pour moi, cette précarité, ce chômage, ce milieu ouvrier, enfin tout ça, ça devient mon combat, en fait. J'ai du mal à accepter qu'il y a un océan entre les gens d'en haut, là, le...
Et 1%.
Ouais. Enfin bref, il y a un océan entre eux et nous, quoi. Et ça devient insupportable, en fait. Aujourd'hui, toi, tu gagnes 1000 euros, 1200 euros, tu fais ta feuille d'impôt. Si tu touches plus de 100 euros, tu montes d'un
palier.
D'un palier, du coup, on te coupe, si tu as 50 euros d'allocation logement, on te les coupe. Tu peux plus faire plaisir à tes enfants, tu peux plus te permettre d'aller manger au restaurant, tu peux plus te permettre de faire plaisir aussi à tes petits-enfants pendant les fêtes de Noël. Non, c'est pas de la privation, mais tu t'es obligé tout le temps de calculer. En fait, tu penses même plus à la privation dans ta tête. Ça existe plus. C'est une habitude. Moi, je suis habituée à vivre comme ça depuis des années. J'ai élevé mes enfants toute seule depuis des années et j'ai toujours vécu comme ça. Et à la limite, moi, je m'en fous. Ça me dérange pas, quoi. Moi, je suis pas l'argent. Ça ne m'intéresse pas, l'argent. Ça m'a jamais intéressé, l'argent. Mais je pense à tous ces gens-là, encore aujourd'hui, là, avec le Covid, là, avec cette crise-là. Tous ces gens-là qui sont à la rue, qu'on traite de feignants, qu'on n'a aucun respect pour ces gens-là, quoi. Et c'est hyper compliqué, en fait. On vit dans une société hyper compliquée. Je trouve même plus mes mots tellement ça m'énerve, en fait.
Quelqu'un veut réagir?
C'est ça la problématique, c'est qu'aujourd'hui, on dit les 1%, mais il y a beaucoup plus de personnes qui sont juste au-dessus d'un certain seuil et qui vont cracher sur celui du dessous. Celui du dessous va cracher sur l'autre qui est encore un peu plus bas. Donc du coup, on s'aperçoit que les gens, bah, ils se mettent des barrières entre eux, ils se crachent dessus les uns les autres. Et c'est là où on dit qu'il y a une classe sociale, où il y a une différence de classe sociale. C'est pas pour autre chose, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Quand une personne gagne 3-4 000 euros, il va cracher sur celui qui gagne 1000 balles.
Moi, je dirais à la limite, je me permets, je dirais à la limite, on s'en fout que les gens crachent sur l'un ou sur l'autre.
Oui, non, mais c'est là où après il y en a.
Non, mais je sais, mais il faut penser, enfin, je pense qu'il faut vraiment penser à ces gens-là qui sont en bas, mais vraiment en bas, qu'ils n'ont rien à bouffer. Eux, ils n'ont rien à bouffer.
Ouais, mais justement, le gouvernement fait en sorte que les personnes qui sont juste au-dessus ne pensent pas à celles d'en dessous.
Ok. Mais encore, il n'y a pas seulement le fait que les gens n'aient plus rien à bouffer, c'est que les gens aujourd'hui, ils sont en train de tomber dans une grosse dépression. Et là, ça, c'est grave. C'est grave parce qu'on a peur. On a peur pour nos enfants, on a peur pour nos petits-enfants. Moi, j'ai peur. Aujourd'hui, je vis dans un c'est le contexte de peur, en fait. Et ça, ça devient insupportable. Et il faut trouver une solution. Moi, pour moi, le mouvement, il n'est pas fini, quoi. C'est le gouvernement qui nous arrête. C'est le gouvernement, c'est Macron, c'est toute sa clique. C'est peut-être pas que Macron, mais en tout cas, il en fait partie. C'est lui qui nous arrête dans notre mouvement. Si il baissait un peu pavillon, je pense qu'on recommencerait et on y arriverait à quelque chose. Mais ils ont tout ce qu'il faut pour nous arrêter. Nous, on n'a rien, on n'a pas d'armes. On ne peut plus parler, on ne peut plus marcher dans la rue. On a jusqu'à s'écraser et se laisser faire et se laisser crever de faim et laisser les autres crever de faim. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nourrit les gens pauvres? C'est les associations. C'est normal, ça?
Et d'ailleurs, ils viennent de prendre 8 millions dans les associations, parce que les associations d'aide alimentaire avaient un peu d'argent de l'État. Et là, ils viennent de ponctionner 8 millions, là, dedans.
Et ils n'ont jamais été aussi remplis, en plus.
Ouais.
Pour revenir sur ce que vient de dire Brigitte, c'est hyper important. Mmh. Et déjà que les gens, ils ont du mal à réfléchir, ils préfèrent ne pas réfléchir et vivre leur vie tranquillement. Mmh. Là, avec le Covid, ça se remplit encore plus. On est dans un climat, une ambiance pesante, anxiogène.
Plus qu'anxiogène.
C'est le mot qui ressort le plus souvent en ce moment quand je parle avec les gens. Les infos, je regarde plus, c'est trop anxiogène. Facebook, j'arrête, c'est trop anxiogène. Tout est anxiogène. Et du coup, les gens ne s'intéressent plus à ce qui se passe vraiment dans... Je ne parle pas de politique, hein.
Tout à fait. Et puis les gens arrêtent de réfléchir et c'est un danger, que ça soit pour la démocratie, pour l'humanité, pour la planète. C'est un vrai danger, quoi. Il faut que les gens continuent à réfléchir. Et là, on le voit, par exemple, par rapport au livre... Faut que les gens deviennent incultes, en fait. Les gens n'ont plus le droit de.
Mais ça, c'est encore une fois fait esprit pour diviser les gens.
Ah, tout à fait. Pour les abrutir, surtout.
Tout ce qui est mis en place depuis des années, c'est fait pour diviser les gens. Les paliers qui sont mis en place au niveau des salaires, je reviens sur les salaires, mais parce que moi, j'ai été confronté à ça. J'étais chef d'entreprise avec plusieurs salariés. Et le problème, c'est que les salariés, alors j'entendais beaucoup leur colère, parce que moi, j'en faisais partie aussi. Ils demandent tout le temps des augmentations, ce qui est normal parce que le pouvoir d'achat augmente et que voilà, c'est compliqué. Mais le problème, c'est que tu fais une augmentation. Moi, l'augmentation, demain, je la fais tous les jours. Le problème, c'est que tu fais une augmentation, derrière, il perd plus d'argent que ce qu'il a gagné. Bon, je prends l'exemple d'un de mes salariés, il gagnait 1372 euros, quelque chose comme ça. On est passé à 1472, donc 100 euros d'augmentation. Et bah derrière, il a perdu ses APL, il a perdu sa prime d'activité. Finalement, et bah, il avait presque 200 balles de plus de charges dans sa poche. Donc, c'est quoi le problème? C'est soit on le laisse à 1372... et il se sent pas revalorisé, donc il veut plus travailler, parce qu'il arrive un moment quand tu tues au boulot et que tu vois que le patron il peut pas, ils veulent pas, c'est différent. On peut pas mettre tout le monde dans le même sac, mais moi, sachant que j'étais ouvrier avant, je sais ce que c'est. Mais quand tu leur expliques qu'en fin de compte, moi je veux bien leur faire l'augmentation, mais derrière ils vont perdre de l'argent, alors c'est soit je leur monte à 1472, soit je leur monte à 1672. Mais 1672, derrière, moi, pour un petit artisan comme moi, et ben je prends une douille avec l'URSSAF, avec les droits de formation, avec la CSG, et puis tout ce qui s'ensuit.
Vas-y.
En fait, l'augmentation, c'est un rapport avec l'argent, ok. Mais l'augmentation, ça, c'est aussi une façon... L'ouvrier, s'il y a une augmentation, c'est une valorisation de son travail,
oui,
de sa personne.
Oui, c'est ça. Mais si derrière, il perd de l'argent.
Oui, mais on sent... Lui, mais non, mais
bah non, il s'en fout pas, parce que derrière...
Non, mais je sais. Mais en tout cas, c'est important pour quelqu'un, pour un être humain, d'être valorisé. Ouais. La seule façon d'être valorisé, c'est l'argent, c'est le salaire.
Aujourd'hui, mais le gouvernement fait en sorte de ne pas pouvoir le faire.
Aujourd'hui, l'être humain, je reparle encore de l'être humain, comment veux-tu qu'il y a... On n'est plus valorisé. On n'est plus valorisé. Il n'y a plus d'augmentation de salaire. Aujourd'hui, un SMIC, c'est nul. C'est quoi? C'est 1200 euros. Tu fais rien avec un SMIC.
Ah non, tu payes ton loyer et tes charges et c'est fini.
Ouais, mais ton salaire ne fait pas ce que tu es toi, en fait. Moi, je ne dirais pas parce que je gagne 900 euros. La valeur d'une personne, c'est pas non plus son statut. Ou, par exemple, t'es médecin, t'es je sais pas quoi. Non. La valeur d'une personne, pour moi, c'est la valeur de ce qu'elle est, ce qu'elle représente, ou ce qu'elle donne aux gens, ou ce qu'elle...
Je parle du travail, moi.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ont un niveau... Ils ont une carrière de je sais pas quoi, enfin bref, qu'ils se sentent mieux que les autres,
Parce qu'ils gagnent tant. Enfin,
ouais.
Parce qu'ils gagnent plus ou tant...
Ça, c'est si...
ouais, mais c'est là où ça revient à des histoires d'argent, disons.
C'est tout, ça sera toujours le nerf de la guerre, c'est l'argent.
C'est des histoires d'argent, mais aussi de, on va dire, de capital culturel, c'est-à-dire de milieu en vase clos. Et c'est intéressant ce que tu disais, Seb, parce que ça rejoint ce que disait un livre, Emmanuel Todd, dans un livre que je conseille vraiment. Je suis désolé. Non, mais
ça parle de classe en plus. Merde.
Non, non. Et donc le livre s'appelle Les luttes des classes en France au XXIe siècle, qui fait référence à Karl Marx. Voilà, parce que c'est un hommage. Et Seb vient de dire exactement ce qui est dit dans le bouquin, c'est-à-dire que Todd, il dit qu'en gros, il y a un mépris de classe descendant. Donc, tu méprises celui qui est un peu en dessous.
Tout à fait.
Cette catégorie est méprisée, méprise celui qui est en dessous. Donc, et ainsi de suite. Donc, c'est, en gros, tout en haut, ça méprise les prolos, etc. Alors, les prolos, ça peut être des fois l'immigré, machin, tout ça. Je dis des fois, bien sûr, machin. Mais enfin, bon, bref, tout un mépris de classe descendant. Et lui, sa vision, justement, c'était de proposer une lutte des classes contre les 1%, et en alliant toutes ces classes pour, entre guillemets, un mépris ascendant, c'est-à-dire pour se renverser contre les 1%, quoi, et puis arrêter de se tirer dans les pattes, ah, tu gagnes un peu plus, un peu moins, machin, et tout ça. Et sachant en plus qu'il a analysé une France où il y avait une baisse générale du niveau de vie, sauf pour les 1%. Mmh. Voilà. Et
éducatif.
Je vais t'obliger de... On passera à la troisième partie.
Juste, tu parlais de capital culturel, il y a aussi une baisse du niveau éducatif.
Et ça en fait partie. Il le dit d'ailleurs dans le bouquin. Donc la troisième partie, ça sera « Que peut devenir le mouvement des Gilets jaunes ?» Et là, on va faire une pause musicale avec les Salles Majestés. Ouais. Gilets jaunes.